Chapitre 31. Les deux femmes suivirent à l'intérieur du palais un chemin qui n'avait absolument rien de rectiligne. Elles n'étaient pas perdues, ne flânaient pas pour mieux visiter et ne choisissaient pas volontairement le chemin le plus long. Ici, pour aller d'un point à un autre, il n'était jamais possible d'avancer en ligne droite. Les tours et les détours se révélaient obligatoires parce que le complexe n'obéissait à aucune règle classique de l'architecture. On avait dessiné sur le sol un sortilège géant, avec ses multitudes de lignes entrelacées, et bâtit le bâtiment en suivant soigneusement ce modèle. Verna avait dessiné dans sa vie des dizaines de sorts similaires, sur une plus petite échelle bien entendu, mais elle n'aurait jamais cru se déplacer un jour à l'intérieur d'un construct magique. Cette manière d'utiliser la magie révolutionnait la vision du monde de la dame abbesse, d'autant plus qu'une question fascinante se posait. Pour être toujours actif après des siècles, ce sortilège visant à protéger la maison râle devait avoir été dessiné à l'origine avec du sang, et plus spécifiquement celui des membres de la famille râle. Comment était-ce possible? Alors que Burdine et elle remontaient de fantastiques couloirs, Verna ne parvenait pas à dissimuler sa surprise et son admiration. Elle avait déjà vu des complexes impressionnants, mais la taille de ce palais dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. En fait, plutôt qu'une résidence luxueuse, c'était une cité qui se dressait au milieu du paysage désolé des plaines d'Azrit. Ce qu'on voyait sur le haut plateau n'était que la partie apparente de l'iceberg. Des dizaines d'étages se nichaient dans les entrailles de la montagne, et un incroyable escalier aux milliers de marches en marbre les reliait les uns aux autres. Gravir cet escalier prenait des heures et des heures. Beaucoup de visiteurs venus exclusivement pour commencer ne dépassaient jamais les deux ou trois premiers niveaux où se concentrait un nombre stupéfiant de boutiques et d'échoppes. Quant au marché en plein air, installé au pied du haut plateau, il ne désemplissait pratiquement jamais. Une route serpentait à flanc de montagne. Défendue par un pont-levis et des centaines de soldats, cette voie d'accès n'aurait de toute façon pas pu servir à une attaque car elle était bien trop étroite. Pour faciliter la circulation des chariots et des cavaliers, on avait aménagé des rampes à l'intérieur du haut plateau. Surveillées par toute une garnison, ces routes-là étaient tout aussi inaccessibles pour un ennemi, sans même parler des lourdes portes géantes qui pouvaient interdire l'entrée de la cité souterraine et l'accès au palais qui reposait au-dessus d'elle comme une délicate couronne. Les statues en pierre noire, disposées de chaque côté d'un couloir en marbre blanc, semblaient suivre la progression de Burdine et de Verna. À la lueur des torches, les immenses statues semblaient presque vivantes. Contraste frappant, la teinte sombre des sculptures opposée à la blancheur immaculée des dalles conférait à ces lieux une aura surnaturelle. Les deux femmes avaient déjà gravi plusieurs volets de marches, lisses et brillantes, comme si une main géante les entretenait tous les jours. La diversité des pierres dans ce palais ne manquait jamais de surprendre la dame abbesse. On eût dit que chaque salle, chaque couloir, chaque escalier était composé d'une variété bien spécifique. Du coup, chacun avait également sa combinaison de couleurs particulières. Dans les parties les plus utilitaires du complexe, un calcaire beige régnait en maître absolu. Inversement, dans les zones ouvertes au public, toutes les variantes de pierre ou de briques aux couleurs vives composaient un décor plus tape-à-l'œil. Certains couloirs privés, des passages qui servaient de raccourcis aux fonctionnaires les plus importants, étaient lambrissés, leurs riches panneaux de bois poli brillant à la lumière des réflecteurs d'argent accrochés aux murs à intervalles réguliers. Si ces couloirs étaient en général assez petits et étroits, plusieurs étages de balcons et de promenades dominaient de toute leur hauteur les avenues principales. Les plus larges, qui composaient en fait les lignes directrices du sortilège, étaient éclairées par de hautes fenêtres qui laissaient pénétrer des flots de lumière. Adossés aux grandes colonnes qui s'alignaient majestueusement les unes derrière les autres, les balcons permettaient aux visiteurs de prendre une courte pause et de regarder évoluer les gens qui allaient et venaient sans cesse à leurs pieds. À plusieurs endroits, des passerelles se croisaient très haut au-dessus de la tête de Verna. À une intersection de couloirs, elle remarqua que deux longueurs de passerelles étaient superposées l'une sur l'autre. De temps en temps, suivant Burdine, la dame abbesse gravissait un escalier, traversait une de ses passerelles et redescendait vers une autre section de couloir au niveau du sol. Ce manège se répétant sans cesse, Verna eut plus d'une fois l'impression d'avancer à une lenteur d'escargot. Mais malgré tous ces détours, sa compagne et elle progressaient régulièrement vers le centre du palais.
« Par là !»
dit Burdine en désignant une porte de chêne à double battant au moins deux fois plus haute que Verna. Chaque battant était orné d'une sculpture représentant un serpent, suspendu à une branche, la queue enroulée comme s'il se préparait à attaquer. La gueule ouverte, les crochets saillants, ces deux reptiles semblaient prêts à s'affronter en un duel à mort. Les poignées en bronze de la porte, placées à la hauteur des têtes de serpent, étaient en forme de crâne.
« Très joli, » marmonna Verna.
« Un avertissement pour que les gens n'aient pas l'idée de franchir ces portes. Une pancarte « Défense d'entrée » n'aurait pas tout aussi bien fait l'affaire. Tous les visiteurs ne savent pas lire, » répondit Burdine, « et les plus vicieux pourraient feindre l'illettrisme quand on les prend sur le fait. Ces symboles sont très clairs, et ceux qui voudraient passer outre savent qu'ils n'auront pas d'excuses s'ils se font surprendre par des gardes. » Au frisson qui courait le long de sa colonne vertébrale, Verna supposa sans peine que les gens sensés faisaient d'eux-mêmes un grand détour. Tous ses muscles bandés, Burdine poussa péniblement le bâton de droite. Derrière, quatre grands soldats armés jusqu'aux dents montaient la garde dans une salle lambrissée de chêne au sol couvert de riches tapis. Deux colosses vinrent barrer la route aux intruses.
« Cette partie du palais est interdite aux visiteurs, » dit l'un d'eux.
Burdine le foudroya du regard.
« Eh bien, assure-toi qu'elle reste, mon brave. »
Se souvenant qu'elle était désarmée dans ce palais, magiquement parlant, bien entendu, Verna resta prudemment derrière sa compagne. Peu désireux de se colter avec une mort de cite, l'homme siffla pour appeler ses compagnons à la rescousse. Le son était assez puissant pour se propager dans les couloirs et alerter des renforts.
« Désolé, maîtresse, » dit un des gardes en approchant. « Mais comme le dit mon camarade, c'est une zone interdite. Je suis d'ailleurs certain que vous le savez. »
Le poing gauche plaqué contre sa hanche, Burdine fit négligemment tourner son agiel autour de son poignet droit. Puis elle le saisit et le brandit sous le nez de l'homme tout en parlant.
« Puisque nous combattons dans le même camp, je ne te tuerai pas sur place. Félicite-toi que je ne porte pas de cuir rouge aujourd'hui. Dans le cas contraire, j'aurais sûrement pris le temps de t'apprendre la politesse. » Comme tu devrais le savoir, les morts de cite sont les gardes du corps personnel du seigneur Ral, et pour elles, il n'existe pas de zone interdite.
Je le sais très bien, mais je ne vous ai pas croisé dans le palais depuis quelque temps.
Parce que j'étais avec le seigneur Ral.
Et vous ignorez que le général chargé de la défense du palais a durci les règles de sécurité.
Une très bonne initiative, puisque nous en parlons. « Je suis ici pour voir le général Trimac et évoquer avec lui ce sujet essentiel. »
Le soldat inclina respectueusement la tête.
« Dans ce cas, c'est différent, maîtresse. Montez l'escalier et quelqu'un vous prendra en charge. »
Lorsque les gardes s'écartèrent, Burdine les gratifia d'un sourire venimeux, puis elle passa entre eux, Verna sur les talons. Les deux femmes s'engagèrent dans un grand escalier de marbre sombre veiné d'écarlate. Verna n'avait jamais vu une pierre si magnifique, ni senti sous sa paume une rampe plus douce et plus lisse. Sur le premier palier, plus grand que la place principale de bien des villages, une petite armée de défenseurs attendait les rares visiteurs. Toute mort de cite qu'elle était, Burdine aurait du mal à en imposer à ces gaillards-là.
« Que font tous ces hommes ici ?»
demanda Verna.
« Nous approchons du jardin de la vie. » Un endroit où il y a eu de gros problèmes par le passé.
Quand Burdine et elle durent s'arrêter devant une haie de garde, Verna nota qu'une majorité de ces hommes étaient des soldats d'élite. Cette fois, les arbalètes étaient chargées d'un carreau et prêtes à tirer.
« Qui est le chef ici ?»
demanda la mort de cite.
« Moi !»
répondit un homme un peu plus âgé que la moyenne des soldats. Les gardes s'écartant à la hâte sur son passage, il avançait d'un pas tranquille.
« Général Trimac !»
s'écria Burdine. Après avoir soigneusement étudié Verna, le militaire se tourna vers la mort de cite. Même si elle n'en aurait pas mis sa tête à couper, la dame abbesse crut remarquer l'ombre d'un sourire sur les lèvres du général.
« Content de vous savoir de retour, maîtresse Burdine. Ça faisait longtemps. »
« Une petite éternité. Je suis ravi de rentrer à la maison. Permettez-moi de vous présenter Verna Sauventrine, la dame abbesse des Sœurs de la Lumière.
C'est une amie personnelle du seigneur Hall et elle dirige les forces magiques qui épaulent nos troupes. » Trimac inclina brièvement la tête sans daigner regarder la visiteuse.
« Dame Abbesse ?»«
Verna, voici le général Trimac, chef de la première phalange de la garde du palais. »
« La première phalange ?»«
Quand il est au palais, nous sommes le mur d'acier qui entoure le seigneur Râle, dame Abbesse. Pour sa sécurité, nous sommes prêts à mourir jusqu'au dernier. »
Trimac regarda alternativement les deux femmes.
« À cause de la distance, nous sentons seulement que le seigneur Râle est très loin d'ici, à l'ouest. Pouvez-vous me dire où il se trouve exactement et quand il reviendra ?»«
Beaucoup de gens paieraient cher pour avoir la réponse à ces questions, général. »
répondit Verna.
« J'ai peur que vous soyez tout au bout d'une très longue file d'attente. »
Trimac parut sincèrement déçu.
« Et comment évolue la guerre? Vous avez des nouvelles ?»«
L'ordre impérial a divisé ses forces. »
Tous les soldats se regardèrent, inquiets, et l'expression du général se durcit tandis qu'il écoutait les explications de Verna.
« Jagang a laissé une partie de ses troupes de l'autre côté des montagnes, » près d'Aïdindril, dans les contrées du milieu. Nous avons des défenseurs là-bas qui empêchent ces envahisseurs d'entrer en Dara. Mais une bonne partie de l'armée adverse est en train de contourner nos lignes afin d'attaquer Dara par le sud. Du coup, le gros de nos troupes s'est mis en mouvement pour tenter de repousser l'assaut.
Les soldats n'émirent pas un commentaire. Alors qu'ils apprenaient les plus terribles nouvelles qu'on aurait pu leur annoncer, ces jeunes gens restaient impassibles. Des hommes d'acier, vraiment.
« Donc, dit Trimac, nos forces approchent du palais. »«
Non, elles sont encore assez loin. Quand ce n'est pas nécessaire, les armées ne se déplacent pas rapidement. Puisque nous avons moins de distance à parcourir que les hommes de Jagang, qui n'avancent pas bien vite, nous évitons d'imposer une marche forcée à nos soldats. Burdine et moi sommes là avant les autres parce que je dois étudier certains ouvrages conservés entre ces murs. Puisque je suis ici, j'ai pensé à vérifier que tout va bien dans le jardin de la vie, une simple précaution. »
Tout en pianotant sur la garde de son épée, Trimac prit une grande inspiration.
« J'aimerais vous obliger, dame Abbesse, mais trois sorciers m'ont ordonné de ne laisser entrer personne. Ils ont été très clairs, même les jardiniers n'ont pas le droit de passer. »
« Trois sorciers ? Et qui sont-ils ? »
« Le premier sorcier Zorender, le seigneur Râle et plus récemment le sorcier Nathan Râle. »
Nathan. Verna aurait dû se douter qu'il jouerait les importants au palais. Étant un sorcier Râle et un ancêtre de Richard, il avait matière à affabuler son activité principale. Qui pouvait dire quels dégâts il avait fait durant son séjour au palais ?
Général, je suis la dame Abbesse des Sœurs de la Lumière et je combats dans le même camp que vous.
« Les Sœurs de la Lumière, hein ? Une de ces femmes est passée par ici il y a 2 ans. Vous vous souvenez, les gars ?»
Trimac regarda ses hommes qui s'étaient tous rembrunis, puis se tourna de nouveau vers la dame Abbesse.
« De longs cheveux bruns ondulés, à peu près de votre taille, il lui manquait le petit doigt de la main droite. Je suppose que ça vous dit quelque chose. »
« Odette, » dit simplement Verna. « Le seigneur Râle m'a parlé des problèmes que vous avez eus avec elle, mais c'était une sœur déchue, si on peut exprimer les choses comme ça. »«
Je me fiche de savoir qui elle servait lorsqu'elle est venue ici. Pour atteindre le jardin de la vie, cette femme a tué 300 soldats. 300 hommes à moi. Et pour repartir, elle a fait 100 victimes supplémentaires. Nous étions impuissants comme des agneaux. Savez-vous ce que c'est de voir des compagnons mourir sans pouvoir les aider ? Avez-vous idée de ce que ressent un officier face à un tel carnage, d'autant plus quand il est incapable de barrer le chemin à une foutue magicienne ? »
Verna baissa humblement les yeux.
« Je suis désolé, général, mais Odette combattait contre le seigneur Râle, pas moi. Je suis de votre côté et je m'oppose aux gens comme elle. »
« Sans doute, mais les ordres de Zed, puis du seigneur Râle, après qu'il eut tué cette femme, sont de ne laisser entrer personne. » « Je ne désobéirai pas, même si ma propre mère me le demandait. »
Quelque chose clochait dans le discours de Trimac, et Verna ne fut pas longue à mettre le doigt dessus.
« Si vous n'avez pas pu arrêter Odette, Comment pensez-vous m'empêcher de passer ?
Je ne voudrais pas aller jusque-là, mais s'il le faut, nous avons les moyens de remplir notre mission. Bref, nous ne sommes plus des agneaux.
De quoi parlez-vous ?
Trimac tira un gant noir de sa ceinture et l'enfila en tendant bien les doigts pour qu'il n'y ait pas de plis. Entre le pouce et l'index de sa main gantée, il saisit un des 6 carreaux d'arbalète à pointe rouge rangés dans des pochettes spéciales fixées à la ceinture d'un de ses soldats. L'homme ayant déjà encoché un projectile dans son arme, il lui en restait encore 4 de réserve. Tenant le carreau par sa courte hampe, Trimac brandit la pointe acérée sous le nez de Verna afin qu'elle puisse l'étudier tout à loisir.
« Ce n'est pas qu'une pointe d'acier, » dit-il. « Ce carreau a le pouvoir d'abattre les détenteurs du don. »«
Je ne comprends toujours pas de quoi vous voulez parler. »
« Ce projectile peut traverser tous les boucliers qu'un sorcier ou une magicienne sont susceptibles d'ériger. »
Verna tendit une main et tapota la hampe du carreau. La douleur la força aussitôt à retirer sa main. Même si son Han était presque impuissant dans ce palais, elle n'eut aucun mal à sentir la force impressionnante de la toile magique qui enveloppait le projectile. Une arme terrible, sans nul doute. Même en disposant de toute sa magie, un sorcier n'aurait pas une chance si un arbalétrier lui tirait dessus.
« Ces projectiles ne vous ont pas permis de neutraliser Odette ?»
demanda Verna.
« À l'époque, nous ne les avions pas. »«
Qui vous les a fournis ?»
Le général sourit avec la satisfaction d'un profane, certain d'être capable de se défendre contre un détenteur du don.
Nathan Rahl m'a interrogé sur nos défenses. Je lui ai parlé du massacre perpétré par votre foutue sœur. En fouillant le palais, il est tombé sur ses armes, apparemment cachées à un endroit où seul un sorcier pouvait les dénicher. C'est lui qui m'a remis ses projectiles et les arbalètes spéciales qui vont avec.
Comme c'était gentil à lui.
Très généreux, oui, approuva Trimac.
Il remit en place le carreau. Les pochettes de ceinture, les gants, le luxe de précaution, tout ça semblait logique lorsqu'on manipulait des armes qui remontaient sans doute aux grandes guerres.
« Nathan Rahl nous a appris à utiliser ces carreaux, » confirma Trimac.
« C'est également lui qui nous a procuré les gants. »
Il retira le sien et le glissa de nouveau dans sa ceinture. Croisant les mains dans son giron, Verna prit une grande inspiration et pesa soigneusement ses mots.
« Général, je connais le sorcier Rahl depuis une époque où votre grand-mère n'était pas encore née. Nathan n'est pas toujours un parangon de prudence, si vous voyez ce que je veux dire. À votre place, je me montrerai méfiant vis-à-vis de tout ce qu'il a dit ou fait ici. »
Dois-je comprendre que le sorcier Rahl est dangereux ?
Pas délibérément, enfin avec nous, mais il a une fâcheuse tendance à occulter les détails qui lui posent un problème. De plus, il est très vieux et très puissant. Du coup, il lui arrive d'oublier qu'il en sait plus long sur la magie que la majorité de ses contemporains. Il peut aussi perdre de vue que le don lui confère des aptitudes hors de portée du commun des mortels. Si vous voulez une comparaison, il me rappelle un vieux gentilhomme qui oublie d'avertir ses invités que son chien mord facilement.
Les soldats se regardèrent, mal à l'aise, et certains écartèrent la main du carquois spécial accroché à leur ceinture. Trimac posa la main sur la garde de l'épée courte, glissée dans un fourreau sur sa hanche gauche.
« Je prendrai vos avertissements au sérieux, dame Abbesse, mais je n'oublierai pas pour autant les centaines d'hommes que j'ai perdus lors de l'attaque d'une de vos sœurs. Je tiens à mes soldats, et je refuse qu'une catastrophe pareille se reproduise. »
Pour se calmer, Verna se rappela que cet homme faisait son devoir, et rien de plus. Dans l'état où était son Han, ici, elle n'avait pas trop de mal à comprendre ce que Trimac avait éprouvé face à Odette lorsqu'il avait été incapable de se défendre.
« Je vois ce que vous voulez dire, général. Moi aussi j'ai des responsabilités. La vie de vos hommes est précieuse, j'en conviens volontiers, et tout ce qui peut empêcher l'ennemi de les menacer est bon à prendre. C'est pour ça que je vous conseille la prudence avec ces carreaux. Les armes magiques ne sont pas sans danger pour les profanes. »
« Je n'oublierai pas vos recommandations, c'est promis. »«
Parfait. Comprenez aussi que le jardin de la vie contient des artefacts extrêmement dangereux. Si je pouvais m'assurer que tout va bien, ce serait dans notre intérêt à tous.
Dame Abbesse, je comprends votre démarche, mais rien ne me permet de déroger à mes ordres. Je ne peux pas vous laisser entrer, même si vous êtes vraiment tout ce que vous dites. Une espionne s'y prendrait-elle autrement pour tenter de me convaincre? Qui me dit que vous n'êtes pas une transfuge ou le gardien lui-même, revêtu d'un déguisement de chair? Si sincère que vous sembliez, je n'ai pas atteint le grade de général en me laissant raconter n'importe quoi par des femmes séduisantes.
Un moment, Verna fut déconcertée d'avoir été qualifiée de séduisante devant tant d'inconnus.
Pour vous rassurer, continua Trimaque, sachez que personne, depuis le départ du seigneur Rall, n'est entré dans le jardin de la vie. Même Nathan Rall n'y est pas allé. Tout ce que le jardin peut contenir est resté en l'état.
J'en prends note, général, dit Verna.
Elle n'était pas prête de revenir au palais, songea-t-elle, et personne ne pouvait dire quand Richard reviendrait. Un sacré casse-tête, tout ça.
Et si je vous faisais une proposition, général? Au lieu d'entrer, je pourrais me tenir sur le seuil du jardin de la vie et jeter un coup d'œil pour voir si les boîtes d'Ordaine sont en sécurité. Pendant ce temps, si ça vous soulage, 10 de vos hommes pointeront leur arbalète sur moi.
Trimaque prit le temps de la réflexion. Un cercle d'hommes autour de vous, leurs armes prêtes à tirer? Vous devrez regarder à travers les brèches de ma muraille de soldats et nous vous abattrons sans sommation si vous franchissez le seuil du jardin.
Verna n'avait nul besoin d'approcher des boîtes. Pour être franche, elle entendait même en rester aussi loin que possible. Mais elle désirait les voir afin d'être sûre que personne d'autre ne les avait touchées. Le dispositif de sécurité que proposait Trimaque ne lui plaisait pas beaucoup. Jeter un coup d'œil sur les boîtes d'Ordaine n'était pas sa mission première, mais plutôt une idée qu'elle avait eue après coup. Cela dit, ne fallait-il pas profiter de l'occasion?
Marché conclu, général. Voir que tout va bien m'aidera à mieux dormir la nuit.
Je ne me plaindrai pas d'avoir un sommeil plus paisible.
Trimaque et une trentaine de soldats escortèrent les deux femmes tout au long d'un couloir en granit poli. Les colonnes qui se dressaient à intervalles réguliers semblait former les cadres d'une imposante succession de tableaux. Pour Verna, cette curieuse galerie était le signe que la main du Créateur n'avait pas été étrangère à l'érection du royaume des vivants, une sorte de jardin de la vie géant si on y réfléchissait bien. L'immense salle qu'on appelait le jardin de la vie était le noyau même du sortilège, devina Verna. C'était là que pulsait le cœur de la magie. La petite colonne s'arrêta devant une immense porte à deux battants ornée de sculptures évoquant la nature.
« Le jardin de la vie s'étend derrière cette porte », annonça simplement Trimaque.
Alors que les soldats pointaient sur Verna et Burdine leur arbalète chargée, le général entreprit d'ouvrir un des deux battants. Les hommes placés derrière Verna et sur ses flancs braquèrent leurs armes sur sa tête. Ceux qui vinrent se camper devant elle visèrent son cœur. Bizarrement, la dame Abbesse trouva l'attention touchante. Elle aurait détesté qu'on lui tire dans le visage. Toute cette affaire lui semblait ridicule. Mais ces hommes prenaient leur mission au sérieux et elle ne pouvait pas les en blâmer. Lorsque le battant fut ouvert, Verna en approcha à petits pas. Ses anges gardiens avancèrent avec elle jusqu'au seuil. Là, elle fit signe à l'un d'eux de s'écarter un peu afin qu'elle puisse voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Sous la lumière qui pénétrait à flot par les hautes fenêtres, la dame Abbesse fut surprise de constater que le jardin de la vie, à première vue, ressemblait à un jardin luxuriant. Des sentiers couverts de gravillons serpentaient entre les parterres de fleurs et des pétales séchés jaunes et rouges couvraient le sol. Au-delà des parterres, de petits arbres offraient des zones ombragées où flânaient en toute tranquillité. Tout au fond de la salle, un mur d'enceinte envahi de lierre marquait les limites de cette fabuleuse enclave. Le jardin de la vie contenait d'innombrables variétés de végétaux, dont une bonne partie était inconnue de Verna. Partout, le manque d'entretien paraissait évident. Les haies avaient besoin d'être taillées, les arbres imploraient qu'on les élague, et les mauvaises herbes envahissaient tout. À l'évidence, Trimaque n'avait pas menti. Personne n'était plus venu ici depuis que Richard avait mis un terme au règne de Darkenral. Au palais des prophètes,
il y avait eu un jardin intérieur, mais beaucoup plus petit que celui-ci. L'irrigation était assurée par tout un réseau de tuyaux reliés à des tonneaux posés sur le toit. Ce système de récupération des eaux de pluie était également utilisé ici. Une chance, car sinon toutes les plantes seraient mortes de soif depuis longtemps. Au centre de l'immense salle s'étendait une pelouse désormais broussailleuse. Cette zone formait quasiment un cercle parfait. Au milieu, sur un rectangle de pierre blanche, un autel de pierre reposait sur un double piédestal. Les trois boîtes d'ordaines trônaient sur l'autel, si noires qu'il était presque étonnant qu'elles n'absorbent pas toute la lumière de la salle pour la plonger, ainsi que le reste du monde, dans les ténèbres éternelles du royaume des morts. La simple vision d'artefacts pareillement sinistres retourna l'estomac de Verna. Pour la dame abbesse, les trois boîtes étaient depuis toujours surnommées « le portail », et ce nom leur allait parfaitement. Combinées, elles devenaient un passage qui reliait le royaume des morts au monde des vivants. La magie des deux univers avait contribué à l'érection de ce portail. Si cette fragile construction s'écroulait, le voile se déchirerait et plus rien ne pourrait interdire aux gardiens l'accès du monde des vivants. Ces informations étant contenues dans des grimoires réservés à une poignée de personnes, peu de résidents du palais des prophètes connaissaient l'antique nom du portail, les boîtes d'ordaines. Ces trois artefacts travaillaient ensemble pour générer le portail. Les sœurs de la lumière pensaient que ce passage était perdu depuis près de 3000 ans. Presque tout estimait qu'il avait disparu à tout jamais, et depuis quelques siècles, une école de pensée mettait en doute son existence même. Un débat théologique faisait rage entre les diverses obédiences. Désormais, Verna connaissait la vérité. Les boîtes d'ordaines existaient bel et bien, et elle avait du mal à en détourner le regard. Contempler de si horribles artefacts donnait des sueurs froides à la pauvre dame abbesse. Maintenant, il ne semblait plus étonnant que trois sorciers aient interdit à quiconque d'entrer dans le jardin de la vie. Malgré ses réticences vis-à-vis du prophète, Verna dut reconnaître qu'il avait eu raison de distribuer les carreaux à la première phalange. Une fois débarrassés du revêtement qui les faisait passer pour des coffrets à bijoux, les trois boîtes noires ressemblaient à des cercueils miniatures. Darkenral avait mis les boîtes dans le jeu avec l'intention d'utiliser le pouvoir d'Ordaine pour régner sur le monde des vivants. Par bonheur, Richard l'en avait empêché. Subtiliser les boîtes n'aurait pas enrichi un voleur lambda. Pour comprendre le fonctionnement du portail et de la magie d'Ordaine, il fallait détenir des informations dont une bonne partie figurait dans un livre qui n'existait plus, à part dans la mémoire de Richard. C'était grâce à ça qu'il avait pu vaincre Darkenral. En plus de ces informations, un éventuel voleur, pour tirer parti des boîtes, aurait dû maîtriser les deux variantes de la magie. Bref, si un inconscient avait tenté de s'emparer des boîtes, c'était lui-même qui l'aurait mis en danger. Voyant les artefacts là où Richard les avait laissés, selon ses propres dires, Verna soupira de soulagement. Pour l'instant, il n'existait pas d'endroit plus sûr où entreposer une magie si dangereuse. Un jour, si c'était possible, Verna ambitionnait de contribuer à la destruction du portail. Pour l'instant, celui-ci était très bien dans le jardin de la vie. « Merci, général Trimac. Je suis contente que tout soit en ordre. »
Et ça le restera, faites-moi confiance. »
Le général commença de refermer le battant.
« Personne n'entrera ici à part le seigneur Rall. »
« Très bien. » Verna sourit à Trimac, puis elle regarda autour d'elle. Impressionnée par le calme qui régnait en ces lieux, une illusion bien sûr, mais très plaisante. « Désolé, mais Burdine et moi allons devoir partir. Je dois rejoindre nos forces. » Dès que je le verrai, je dirai au général Meffert que tout est en ordre ici. Espérons que le seigneur Hall nous rejoindra bientôt. Selon les prophéties, s'il arrive à temps, nous avons une chance d'écraser l'ordre impérial ou, au minimum, de le renvoyer dans l'ancien monde. Trimac hocha sobrement la tête.
Puissent les esprits du bien être avec vous, dame abbesse.
Flanqué de Burdine, Verna s'éloigna du jardin de la vie puis sortit de la zone interdite. En descendant l'escalier, elle s'avisa qu'elle se réjouissait de rejoindre l'armée, même si la mission qu'elle avait à remplir l'inquiétait. Depuis qu'elle séjournait au palais, la dame abbesse se sentait beaucoup plus liée à l'Empire d'Aran, une entité créée par Richard et qui lui ressemblait beaucoup. Un peu de son ancienne ferveur recouvrée, Verna devait bien admettre qu'elle aimait davantage la vie ces derniers temps. Cela dit, si Richard ne revenait pas, l'armée d'Aran courait au désastre.
« Dame Abbesse ?»
lança Burdine en tirant derrière elle un des battants de la porte orné de deux serpents haineux.
« Qu'y a-t-il, mon ami ?»«
Je crois que je devrais rester ici. »«
Rester ? Pourquoi faire ?»«
Si Anna trouve le seigneur Rall et nous le ramène, il aura comme garde du corps toutes les morts de site présentes. Sans parler de vous, bien entendu. » L'ennui, c'est qu'Anna ne le localisera sûrement pas.
Elle ne peut pas échouer. Richard est conscient du poids que la prophétie fait peser sur ses épaules.
Même si Anna ne le trouve pas, je suis sûr qu'il sera là au moment voulu.
C'est possible, mais pas garanti, Verna. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Il ne pense pas comme vous, Dame Abbesse. Pour lui, les prophéties ne sont pas si importantes que ça.
Tu ne crois pas si bien dire ? Soupira Verna.
Dara est le pays du seigneur Rall, même s'il n'y a jamais vécu, sauf lorsqu'il était prisonnier. Il aime son peuple, et il sait que cette affection est partagée. Il éprouvera peut-être le besoin de revenir ici. S'il le fait, je dois être là pour lui.
Il a besoin de moi pour traduire les livres. Du moins, j'aime penser que je lui suis utile. Depuis que je le connais, il me donne le sentiment de servir à quelque chose.
Alors j'ai l'impression que je devrais rester ici.
S'il vient, je lui dirai que vous l'attendez impatiemment parce que la bataille finale est pour bientôt.
Ton lien te dit-il où il est ?
Burdine désigna l'ouest. Quelque part dans cette direction, mais très loin d'ici.
Le général m'a dit la même chose. Ça laisse penser que Richard est au moins de retour dans le Nouveau Monde. Une bonne nouvelle, ça.
Plus il approchera, et plus les Darans sentiront sa présence.
C'est peut-être en restant ici que je vous aiderai vraiment à le trouver.
Verna réfléchit quelques instants.
Eh bien, tu me manqueras, Burdine, mais tes propos sont sensés et tu dois agir selon ta conscience. Si tu crois que rester ici est ta meilleure option,
j'en suis certaine, Dame Abbesse. De plus, j'aimerais étudier quelques ouvrages et les comparer au journal de Colo. Certains détails me perturbent. Si je trouve les réponses à mes questions, je pourrais peut-être aider le seigneur Rall à remporter cette bataille finale.
Verna eut un sourire mélancolique. « Tu m'accompagnes jusqu'à la sortie ? »
demanda-t-elle.
« Bien sûr. »
Entendant des bruits de pas précipités, les deux femmes se retournèrent. Une mort de Sith en uniforme rouge, plus grande que Burdine et blonde comme les blés, approchait en étudiant Verna avec un regard froid plein d'une souveraine confiance en elle.
« Nida !»
s'écria Burdine. La femme eut un demi-sourire lorsqu'elle s'immobilisa devant sa collègue et lui posa les mains sur les épaules. Un geste exubérant pour une mort de Sith, le summum de l'enthousiasme même, sauf peut-être pour Burdine qui devait pouvoir faire mieux en de rares occasions.
« Sœur Burdine, » dit Nida, « voilà longtemps que tu es absente et tu as manqué à Dara. Bienvenue chez toi. »«
J'ai plaisir à être de retour et à te revoir. » Le regard de Nida glissant vers la dame abbesse, Burdine se souvint des règles élémentaires de la politesse.
« Nida, je te présente Verna, la dame abbesse des Sœurs de la Lumière. C'est une amie et une conseillère du seigneur Rall. »
« Il arrivera bientôt ?»«
Hélas non, ma sœur. »«
Vous êtes vraiment sœur ?» demanda soudain Verna.
« Non, » répondit Burdine. « Mais les morts de Sith s'appellent parfois ainsi, comme vos sœurs de la lumière. Nida est une vieille amie. »«
Au fait, où est Raina ?»
Burdine blêmit d'un seul coup, comme chaque fois qu'on prononçait devant elle le nom de sa bien-aimée.
Elle est morte.
Je suis désolé, mon ami. A-t-elle dignement péri, son agiel au poing ?
Burdine baissa les yeux. Elle a attrapé la peste, et elle a lutté jusqu'à son dernier souffle. Mais au bout du compte, c'est la seule bataille qu'elle aura jamais perdue. Elle est morte dans les bras du seigneur Ral.
Verna crut voir les yeux bleus de Nida s'embrumer un peu.
« Je suis navrée, ma sœur. »
« Le seigneur Ral a pleuré pour elle, » dit Burdine en relevant les yeux.
Au regard surpris de Nida, Verna déduisit que les seigneurs Ral précédents devaient se ficher comme d'une guigne du destin des morts de Sith. Une nouvelle fois et sans calcul, Richard avait agi d'une façon qui marquerait longtemps les esprits.
J'ai entendu des histoires extraordinaires de ce genre au sujet du seigneur Ral. Ce serait donc la vérité ?
La vérité vraie, confirma Burdine avec un grand sourire.